Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. L'iPhone est à un tournant. Selon toute vraisemblance, Apple s'apprête à doter de futurs modèles d'un tout nouveau modem 5G conçu en interne. Alors qu'on n'a pas vraiment à se plaindre des modems Qualcomm qui équipent les iPhones actuels, pourquoi Apple s'est-elle lancée dans ce projet extrêmement ambitieux ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, l'iPhone SE et l'iPhone 14 seront bientôt retirés de la vente en Europe. Les prochaines Apple Watch pourraient gagner de fonctionnalités innovantes et le Vision Pro va avoir une grosse concurrence. Nous sommes le samedi 14 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. J'espère que vous avez la fibre à la maison parce qu'il y a eu un gros paquet de mises à jour mercredi soir. Alors si vous êtes passé à côté, ce sont macOS 15.2, iOS 18.2, tvOS 18.2, watchOS 11.2, visionOS 2.2 et des mises à jour pour les HomePod et les AirPods qui sont sortis en version finale. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour, oui, ça va, je suis passé en point 2 également. Et toi ?
Ça va, je suis passé en point 2 aussi. Est-ce qu'il y a des nouveautés parmi toutes ces mises à jour qui ont retenu ton attention ?
Simplement, c'est que je commence à être un petit peu jaloux des Américains qui s'amusent beaucoup avec Apple Intelligence et nous, il faut bricoler, c'est un peu compliqué. Vivement, c'est le mois d'avril, c'est ça ?
Vivement
avril 2025 alors.
Et en français, ouais, pour Apple Intelligence. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un gros paquet de nouveautés qui sont arrivées pour Apple Intelligence. Les Genmoji, c'est assez rigolo à faire, là, les emojis inédits. Et puis Visual Intelligence, ChatGPT, non, c'est vrai que là, ça devient quand même du sérieux.
C'est tellement le focus, et on a donc également appris qu'on est allé avoir tout au long du premier semestre des grosses mises à jour d'iOS avec 18.3, 18.4, des mises à jour plus importantes que ce qu'on était habitué à connaître précédemment, même si on a toujours une relativement importante au printemps. Donc on sent que c'est un focus de plus en plus important chez Apple et on a l'impression d'être un petit peu au bord de la route avec cette histoire.
Alors le gros sujet de la semaine, c'est l'intégration prochaine du premier modem d'Apple dans un iPhone. Alors je triche un petit peu, l'article de Mark Gurman qui détaille cet énorme projet est paru en fin de semaine dernière, mais bon voilà, il est arrivé après l'enregistrement de sortie de veille. Donc on se rattrape dans cette émission. C'est un secret de polichinelle, Apple travaille depuis plusieurs années sur un modem 5G maison. Alors ça fait vraiment aucun doute, elle a fait l'acquisition de l'activité puce réseau d'Intel en 2019 et il y a eu de nombreux investissements dans ce domaine, y compris en Europe, dans un centre de recherche à Munich. L'iPhone SE 2025 devrait être le premier iPhone à être équipé d'un modem Apple, donc c'est un iPhone qui est espéré pour le printemps. Christophe, autant on avait des choses à reprocher au processeur Intel avant la transition Apple Silicon, autant là il me semble que les modems de Qualcomm posent pas vraiment de problème. Ce sont même les meilleurs du marché et ils sont en avance sur les réseaux mobiles. Alors quel intérêt a Apple à développer son propre modem ?
Mais quand sais-tu, à quel point les puces Qualcomm sont-elles, on va dire... excellente. Est-ce que ce sont les Apple Silicon des puces modem ? J'en sais rien. Bon, ce qui était certain, ça, on sera d'accord, je pense, sur ce point, c'est qu'elles étaient meilleures que les puces Intel qui équipaient certains iPhones à la fin des années 2010.
Oui.
Bon, alors, on va grossir le trait. Sur un ordinateur, on a toujours coutume de dire que le processeur est l'élément le plus important. Mais alors, que dire d'un smartphone qui passe son temps à dialoguer avec des réseaux ? C'est son essence même. Donc, finalement... c'est tout à fait logique qu'Apple s'intéresse à ce composant qui est d'une complexité incroyable. Mais si Apple réussit à terme à produire des puces qui sont d'un niveau similaire à celle de son concurrent, c'est tout bénef pour Apple. Ce sont de meilleures marges, mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément le plus important. C'est une plus grande flexibilité en matière de design et c'est sans doute une plus grande optimisation en ce qui concerne l'interaction du logiciel et du matériel. De manière générale, Apple cherche à accroître sa mainmise sur les composants clés de ses terminaux. Alors, en parallèle, on a appris cette semaine qu'elle finalise sa puce Wi-Fi Bluetooth qui devrait équiper l'année prochaine les Apple TV et les HomePod mini qui vont, un petit peu comme l'iPhone SE pour la 5G, la puce 5G d'Apple, servir de cobaye. On imagine que tout ça arrivera, enfin c'est ce qui d'ailleurs se murmure déjà, sans doute en 2026 sur les Mac et les iPads. Bon, et à plus long terme, alors je laisse le débat aux experts, c'est des choses compliquées, mais il est quand même probable qu'à terme, Apple cherche à rapprocher certains de ses composants entre eux. Alors, pourquoi? Bah, c'est assez simple. De ce que l'on sait de la feuille de route d'Apple, on va toujours vers des appareils plus compacts où la place est toujours plus restreinte. Bon, c'est vrai qu'Apple déjà produit l'Apple Watch, hein, qui est quand même à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais si dans les années qui viennent, on va vers des appareils qui sont pliables, bah, là aussi qui seront également très fins, donc on aura des problèmes de place. Et le graal absolu, cela semble être des lunettes, on va dire, connectées. Le plus simple pour y arriver, c'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne. À plus court terme, on a cette rumeur de l'iPhone Air qui, quelque part, est un excellent exercice. Hein. Toujours mettre plus d'électronique dans un endroit très restreint. Et d'ailleurs, enfin, la rumeur veut que l'iPhone Air soit le galant d'essai, un iPhone pliable. Donc voilà, quitte à se répéter encore une fois, vraiment, plus Apple maîtrisera les différents composants importants au niveau du hardware, plus elle sera capable de faire des produits avec des designs qui correspondront à son cahier des charges, qui est toujours très exigeant.
Et puis on peut vraiment rêver là autour des bornes AirPort, hein, avec le développement d'une puce Wi-Fi. Tout est possible maintenant.
Oui, alors ça, c'est... Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? On va passer à un autre sujet, un sujet très important, puisque selon nos informations, l'iPhone SE et l'iPhone 14 seront très bientôt retirés de la vente en Europe. À la fin du mois, on ne les trouvera plus dans les Apple Store physiques ni sur l'Apple Store en ligne. Alors ce retrait est lié à la directive de l'Union européenne sur le chargeur universel qui impose un port USB-C dans les smartphones et d'autres appareils électroniques. Alors Apple avait pris les devants pour la plupart de ses produits. Il y a quelques semaines, ce sont les périphériques des Mac qui sont passés à l'USB-C. Mais c'est assez exceptionnel que des produits Apple doivent être retirés pour des raisons légales. Et donc tous les iPhones ne sont pas encore passés à l'USB-C. L'iPhone SE et l'iPhone 14 constituent actuellement l'entrée de gamme d'Apple. Sans eux, l'iPhone le moins cher, ça va être l'iPhone 15 à 869 €. L'arrivée du nouvel iPhone SE va être urgente, Christophe.
Ah oui, ça c'est certain. Alors, l'année dernière, c'était les Apple Watch qui étaient au cœur d'une polémique aux États-Unis. Elles avaient été amputées de la mesure du taux d'oxygène sanguin, qui n'est toujours pas revenu d'ailleurs. Hein. Donc pendant quelques semaines, l'Apple Watch avait été retiré de la vente avant que Apple alors ne règle pas le problème, mais désactive cette fonctionnalité sur les Apple Watch vendus aux États-Unis. Cette année, ce sont les anciens iPhone en Europe qui posent problème. Donc on va dire que quelque part, c'est la nouvelle norme pour Apple d'avoir des casseroles en fin d'année. Alors oui, c'est sûr que ça va. Le premier trimestre va être compliqué pour Apple en Europe. Alors il y a des choses qu'on ne sait pas exactement. On ne sait pas, par exemple, si les reconditionneurs vont pouvoir continuer à vendre des modèles Lightning.
Mmh. En tout cas, c'est sur le refurb d'Apple, il n'y en aura pas, c'est sûr. On a eu l'info, mais voilà, à voir chez les autres reconditionneurs s'ils restent disponibles ou pas. Ouais.
Et ça va être aussi problématique pour les opérateurs de téléphonie mobile qui subventionnent les iPhones. Donc là, ils n'auront que des offres haut de gamme pour promouvoir l'offre
l'iPhone
d'Apple.
15, ouais.
Ouais, voilà, l'iPhone 15, donc ou 16. Oui, je pense qu'ils vont bricoler en attendant l'arrivée de l'iPhone SE au printemps. Sachant que c'est peut-être pas si pire que ça, parce que je suis pas sûr que le premier trimestre soit en termes de vente d'iPhone un trimestre très très soutenu en Europe. Et d'autre part, on est quand même encore plutôt dans le début de cycle de lancement des nouveaux iPhones. Alors peut-être que l'appétence pour les nouveaux iPhones est encore assez forte. Mais oui, ça va. Le premier trimestre sera pas terrible en Europe, c'est certain.
Ouais, il y aura vraiment un trou en entrée de gamme assez impressionnant. Tu parlais des Apple Watch, on a eu des rumeurs sur de futurs Apple Watch. Alors que la montre d'Apple évolue très doucement depuis plusieurs années, deux nouveautés pourraient arriver d'un coup dans la Series 11 et la Ultra 3. Alors d'une part, ces Apple Watch pourraient se connecter aux satellites pour envoyer des messages quand on se trouve dans des zones blanches, et d'autre part, elles pourraient prendre la tension artérielle. Donc la montre pourrait détecter une hypertension artérielle, c'est une pathologie qui peut être un important facteur de risque cardiovasculaire. Ce sont deux fonctionnalités qui sont rares, voire inexistantes dans les montres connectées. Est-ce que tu crois que ça pourrait inciter les utilisateurs actuels à renouveler leur Apple Watch ou bien élargir la clientèle?
C'est une bonne question. Je suis curieux d'avoir des indications sur les ventes de l'Apple Watch Series 10. Alors, c'est pas forcément la refonte comme on l'a eu à l'époque avec l'iPhone 10, mais bon, Apple a quand même pris le soin de bien revoir sa montre. Et voilà, je me pose la question de savoir est-ce qu'un nouveau design est synonyme de vente relancée? En tout cas, à quel point? Alors, pour en revenir à ta question, le tensiomètre, on le trouve quand même sur certaines montres. Par contre, c'est sûr que la connexion par satellite, ça serait une grande première. Alors, évidemment, pour l'Apple Watch, pour l'Apple Watch Ultra, ce serait tout bénef, hein. Ça conférerait un côté aventure extrême à la montre d'Apple, à condition en parallèle de bosser également sur l'autonomie, hein. Ça reste quand même quelque chose à améliorer. Sinon, donc, voilà, dans le domaine de la santé connectée, il y a une course à la donnée au capteur. Voilà, donc ce serait effectivement un plus pour Apple d'être en mesure de donner des indications sur la tension artérielle aux utilisateurs. Je pense que plus l'Apple Watch sera compétente en matière de santé, plus elle intéressera du monde. Voilà, c'est certain. Mais moi, j'imagine que le rêve ultime de Tim Cook, c'est que sa montre soit tellement débrouillarde en matière de santé qu'elle soit distribuée d'office par les mutuelles du monde entier.
Ça va peut-être arriver un jour, hein. Même avec des AirPods. Hein, on voit que les AirPods aussi sont de plus en plus axés vers la santé. C'est vraiment une direction prise par Apple importante.
Il y a déjà eu des expérimentations, il y a des campagnes de publicité où il y a des sociétés d'assurance ou des mutuelles qui distribuent des montres à leurs clients, mais c'est quand même, pour l'instant, c'est encore assez restreint.
Et on termine le tour des actus de la semaine avec l'annonce d'Android XR. Alors Google, Samsung et Qualcomm se sont alliés pour créer une plateforme et un casque de réalité mixte. Alors très clairement, ces acteurs veulent concurrencer directement le Vision Pro. D'ailleurs, le casque du Samsung lui ressemble pas mal et le système de Google ressemble à Vision OS. Pour l'heure, Samsung n'a présenté qu'un prototype. On n'a pas beaucoup d'infos sur son casque. Mais le fabricant coréen a indiqué que son produit devrait être moins cher que le Vision Pro. En même temps, c'est pas très difficile. Et au-delà de Samsung, Google veut créer une plateforme similaire à Android. C'est-à-dire que chaque fabricant pourrait utiliser Android XR pour créer son propre casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. Cette nouvelle concurrence, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Vision Pro?
J'ai une question pour un ami. Est-ce qu'Apple a déposé beaucoup de brevets sur Vision OS et sur Vision Pro?
Pas mal, ouais. Oui, quand même pas mal.
On va se retrouver à revivre une histoire qu'on a déjà vécue, j'ai l'impression. Non, mais plus sérieusement, Google, avec ses lunettes, fricote sur ce marché depuis une éternité. Il se place au cas où. Et puis, de toute façon, ce qui est bien chez Google, c'est qu'on n'hésite pas à arrêter un projet si celui-ci ne fonctionne pas. Très sincèrement, je crois que cette histoire ne change pas grand-chose pour Apple. À la limite, ça doit sans doute contrarier un peu plus Meta, qui pourrait à terme avoir plus de concurrents avec des fabricants qui lanceraient des casques entrée de gamme. Ça reste à voir. Bon, de toute façon, là, on en est pour l'instant à l'heure des tout premiers bilans pour le Vision Pro en 2024. Bon, je crois pas que... Enfin, c'est plutôt un échec. On peut pas dire que Apple ait relancé ce marché. D'ailleurs, je me faisais la réflexion. Là, on est en pleine période de Noël et des guides d'achat et tout ça. Alors, évidemment, le Vision Pro était un petit peu hors catégorie pour tout ça, mais on n'a pas eu non plus les casques de Meta qui étaient vraiment présentés partout comme le must-have à offrir pour ces fêtes de fin d'année.
J'ai vu quand même beaucoup de pubs, hein, pour le MetaQuest 3S, le nouveau là à 330€. J'ai l'impression que Meta compte quand même beaucoup dessus sur Noël pour en vendre un paquet. Hein.
Sans doute. Après, on fera le bilan quand on aura les chiffres en début d'année. Et je n'hésiterai pas à faire amende honorable si je me suis trompé.
On verra ça en début d'année, effectivement. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.